2000 ans d'histoire. Le 16 juillet 1945, à l'aube, quelque part dans le désert du Nouveau-Mexique, une centaine de savants assistent au premier essai d'une arme nouvelle, dont la puissance épouvante, ceux-là même qu'ils l'ont inventée. C'était comme si quelqu'un avait allumé le soleil en pressant sur un bouton, disait le physicien Otto Frisch. À côté de lui, ce jour-là, il y avait presque tous ceux qui, depuis 3 ans, autour de Robert Oppenheimer, travaillaient dans le plus grand secret à la mise au point de la bombe atomique. Ils étaient allemands, hongrois, anglais, danois, canadiens ou italiens. Ils s'appelaient Enrico Fermi, Edward Teller, James Chadwick ou Ernest Lawrence. Il ne manquait que celui qui, le premier, avait eu l'idée de la bombe atomique, le plus étonnant de ses apprentis sorciers, Léo Szilard, un juif hongrois qui, 10 ans plus tôt, avait fui l'Allemagne, où les chemises brunes de Hitler traquaient les étrangers jusque sur les bancs de l'université de Berlin.
Dans l'atome, le comportement d'une particule est donc imprévisible.
Tout est fait à une cause, professeur Heisenberg. Il est donc prévisible. Vous connaissez la formule d'Einstein? Dieu ne joue pas au dé avec l'univers.
Le professeur Szilard est un de ceux qui croient encore à un univers rationnel, ordonné, absolument logique et sans faille. Einstein ne croit pas au hasard. Alors examinons un peu ses théories.
Pas de physique juive ici.
Je vous demande pardon?
Pas de science juive dans cette discussion.
Quelle affirmation stupide! Cet endroit sert à la science et pas à la politique.
Professeur, en tant que prix Nobel allemand, vous êtes supposé enseigner la physique allemande à des Allemands, et non de la métaphysique juive à un ramassis de juifs et d'étrangers.
Vous n'êtes que des brutes! Vous déshonorez l'Allemagne!
Nicolas Witkowski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien, auteur d'un livre, L'histoire sentimentale des sciences, qui vient d'être publié au Seuil, le portrait de plusieurs savants, dont celui dont nous allons parler avec vous aujourd'hui, Léo Szilard, un juif hongrois qui avait fui l'Allemagne nazie en 1935. Si on avait une seule preuve à donner de l'ineptie du nazisme, celle-là suffirait. Le départ de Léo Szilard et d'autres savants non-allemands de cette université allemande, de l'Allemagne, de Berlin, où déjà se trouvaient la plupart des savants nucléaires de l'époque des années 30.
Tout à fait, preuve d'absurdité que cette invention d'une physique allemande, entre guillemets, d'une physique juive, qui a évidemment déterminé le départ de quantités de personnages tout à fait passionnants, du calibre d'Einstein, de Szilard et d'autres, sans oublier qu'il n'y a pas que le problème nazi qu'ont affronté les personnages de cette époque. Szilard est né à Budapest, a été à l'école à Budapest, pendant la Première Guerre mondiale, avec des gens du calibre de Edward Teller,
l'inventeur de la bombe H,
absolument,
juif et hongrois comme Szilard,
futur inventeur de la bombe H, Arthur Koestler, von Neumann, inventeur de l'ordinateur, Denis Gabor, inventeur du laser et de l'holographie. Donc, si vous voulez, on a parlé de miracle hongrois pour caractériser cette situation très particulière de juifs hongrois qui se sont trouvés poussés à faire mieux que n'importe qui. Il fallait pas être parfait, il fallait être plus que parfait, a dit Arthur Koestler plus tard.
Alors Szilard va faire mieux que beaucoup de gens, puisqu'il part donc en 35, d'abord à Londres avant d'aller aux États-Unis. C'est même à Londres, dites-vous, Nicolas Witkowski, qu'il découvre ce qui va déterminer l'invention de la bombe atomique. C'est même lui le premier qui a l'idée, à partir de la réaction en chaîne, c'est ça, de créer une bombe.
Voilà, l'idée à l'époque est que on vient d'inventer, si je puis dire, le neutron, c'est 31, le neutron, 1931, et l'idée est que cette particule qui constitue les noyaux atomiques, si on la projette à une certaine vitesse sur un gros noyau atomique, par exemple d'uranium, ce noyau pourrait se casser en plusieurs morceaux plus petits et produire d'autres neutrons qui, à leur tour, pourraient aller casser d'autres noyaux d'uranium. C'est effectivement le principe de la réaction en chaîne qui est à l'origine de notre bombe atomique.
Alors, beaucoup de gens travaillent là-dessus. En France, il y a Joliot. En Allemagne aussi, il y a quand même quelques savants qui sont restés, qui vont travailler à une bombe allemande. C'est d'ailleurs ça qui fait peur à Szilard.
Quelques savants, en particulier Heisenberg, ils restent tout de même des savants d'envergure qui gravitent non seulement à Berlin mais aussi à Copenhague autour de Niels Bohr. C'est encore une des capitales européennes de la physique atomique à cette époque-là, et effectivement, la grande question est, sera plus tard, parce qu'elle n'est pas encore, est-ce que les Allemands sont en train de préparer une bombe? Et on verra que ce sera un des gros critères de décision pour le projet Manhattan.
Effectivement, c'est ce qui détermine, c'est là où le rôle de Szilard, après avoir imaginé la réaction en chaîne et l'idée d'une bombe, le rôle de Szilard va être une fois de plus déterminant. Il part aux États-Unis en 1938, et là donc, il va essayer de convaincre le président des États-Unis, Roosevelt, de la nécessité de fabriquer une bombe. Et pour cela, Nicolas Witkowski, il rédige une lettre qu'il va faire signer à Einstein qui se trouve aux États-Unis.
Tout à fait. Il fait signer cette lettre par Einstein. Entre parenthèses, il se fait accompagner par Teller parce que Szilard n'a jamais eu de permis de conduire. Donc ils vont dans la maison de campagne d'Einstein et Einstein accepte de signer cette lettre qui va presque convaincre Roosevelt.
Oh, mon cher Léo, ça fait si longtemps.
Edward Teller, compatriote, congénère, collègue, compagnon.
Et chauffeur.
Bon, je n'irai pas par quatre chemins. La bombe atomique est inévitable. La question est, qui l'aura le premier? Hitler va exterminer tous les Juifs. Il a déjà commencé. Il veut dominer le monde. On va rester assis dans notre tour d'ivoire jusqu'à ce qu'il ait les moyens de le faire.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alerter Roosevelt.
Si le gouvernement s'en occupe, c'est l'armée qui va mettre le grappin dessus.
On doit choisir, Albert. Une bombe américaine ou une bombe nazie.
Et Einstein va donc signer la lettre de Szilard, c'était en juillet 1939. C'est la seule participation d'ailleurs de Einstein à la bombe atomique. On croit toujours que c'est lui qui l'a inventée. Il n'y a pas du tout participé, Nicolas Witkowski. En tout cas, il s'agit de convaincre un gouvernement américain, le gouvernement américain, à fabriquer la bombe atomique. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, au début de l'année 1939, aux États-Unis, seul un tout petit groupe d'hommes et de femmes est informé des progrès de la fission de l'atome et conscient des risques qu'elle représente. En 1939, se souvient Alexander Sachs, conseiller privé du président Roosevelt, en 1939, dit-il, la nouvelle de la découverte de la fission atomique provoqua une violente émotion chez certains savants et autres personnalités qui se préoccupaient tous des implications que cette découverte pouvait avoir dans l'art de la guerre. Or, parmi ces savants, donc, Léo Szilard, qui écrit dans ses mémoires, « Dès le début, j'ai été extrêmement favorable à la fabrication d'une arme atomique, et cela parce que nous avions tous l'intime conviction que les Allemands étaient en train de mettre au point leur propre bombe. Il ne nous restait donc qu'une seule chose à faire, à en mettre nous-mêmes une au point. » En juillet 1939, Szilard essaye d'abord d'attirer l'attention du gouvernement américain. En vain, le 10 juillet, un responsable militaire lui répond « Il apparaît presque impossible que les forces armées concluent des accords quelconques capables de vous être d'utilité. Je suis navré, mais je ne vois pas d'issue. » Donc, quelques jours plus tard, on y arrive, Léo Szilard décide de faire appel à Albert Einstein. Et après quelques péripéties, il finit par le trouver donc à Long Island, le 2 août 1939. Nous fûmes très frappés, raconte Szilard, par la promptitude avec laquelle Einstein saisit le problème. Il était tout à fait disposé à attirer l'attention du gouvernement des États-Unis. Donc ce jour-là, 2 août 1939, date historique, Albert Einstein signe la lettre rédigée par Szilard et adressée au président Roosevelt. La voilà, en substance. Monsieur, au cours des 4 derniers mois, grâce aux travaux de Joliot en France et de Fermi et Szilard en Amérique, la probabilité est apparue de pouvoir provoquer, dans une masse considérable d'uranium, des réactions nucléaires en chaîne, capables d'engendrer d'énormes quantités d'énergie. Ce phénomène nouveau impliquerait également la fabrication de bombes, dotées d'une puissance énorme. Une seule bombe de ce type, transportée sur un navire et explosant dans un port, arriverait à détruire non seulement le port tout entier, mais une partie du territoire environnant. Alors vous remarquerez au passage que, qu'en 1939, ça ne vient pas encore à l'esprit que cette bombe peut être transportée par un avion, ce qui sera le cas quelques années plus tard. Et le 19 octobre 1939, Roosevelt, donc le président Roosevelt, répond à Einstein « Mon cher professeur, je vous remercie de votre lettre. Ces éléments m'ont paru d'une telle importance que j'ai réuni un comité. »
Le 19 octobre 1939, la réponse de Roosevelt, c'est quelques jours après le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Nicolas Witkowski, la lettre de Szilard signée par Einstein a été déterminante.
Elle a été déterminante, elle est à l'origine, elle est donc à l'origine du fameux projet Manhattan qui va aboutir à la fabrication de la bombe, et elle est célèbre dans l'histoire des sciences parce que Szilard et Einstein s'en sont voulus jusqu'à la fin de leur vie d'avoir écrit cette chose-là, qui finalement a précipité les États-Unis dans une, les États-Unis et toute la planète dans une course aux armements dont on perçoit encore les effets aujourd'hui. Cette lettre a failli atteindre son but. Un seul petit problème s'est posé, c'est que Roosevelt n'a pas vécu assez longtemps pour mener jusqu'au bout l'action qu'il avait entreprise. Et que Truman est arrivé ensuite.
Mais c'est Roosevelt, restons dans là, quand même, qui décide de la création de ce projet Manhattan, que vous mentionnez. Il y avait des milliers de savants qui travaillaient à la bombe. Ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que ce projet, on ne l'a pas confié à Szilard, parce qu'on s'en méfie un petit peu quand même. Et puis il n'est pas américain, oui, et la plupart des savants d'ailleurs de ce projet ne sont pas américains, hein, sauf le patron Robert Oppenheimer et le général Groves, hein, qui était le patron militaire de ce projet Manhattan. Lui, Szilard, il travaille à Chicago, et c'est lui qui, avec Fermi, va mettre au point cette fameuse réaction en chaîne. Il fallait passer par ce qu'on appelle la pile atomique pour construire la bombe.
Si on revient un peu en arrière sur l'idée première, qui est un neutron qui fait fissionner un atome et un noyau et qui donne deux neutrons qui vont à leur tour déclencher une réaction en chaîne, le problème était de prouver qu'un neutron fissionnant un atome en donnait deux. Et cette preuve-là est arrivée en 1939 par Szilard, qui a trouvé cette chose-là, qui en a immédiatement alerté Fermi, son ami italien qui avait de son côté mené des études sur les neutrons. Ils se trouvaient à Chicago ensemble, et ils ont donc compris que si on voulait prouver la faisabilité de la bombe, il fallait d'abord commencer par faire une micro-bombe maîtrisée, c'est ce qu'on appelle une pile atomique, avec des barres de graphite qui permettent d'interrompre la réaction en chaîne, mais qui dégagent suffisamment d'énergie pour prouver la faisabilité de la chose. Et c'est ce qui se fait à Chicago à cette époque-là, sous le stade de l'université de Chicago.
Et c'était le 2 décembre 1942.
Messieurs, nous sommes en présence d'une réaction en chaîne continue et contrôlée.
Non.
Nous venons d'entrer dans l'ère nucléaire.
Non.
Et maintenant, allons déjeuner.
Revenez à télécom codé au troisième.
Pensez à tout ce que l'on pourrait tirer de cette merveille. De la lumière, de la chaleur. De quoi voyager et soigner des malades. L'intérieur de cette pile va connaître les feux les plus puissants de la création. Comme la naissance d'une étoile. Vous vous rendez compte, général?
Mon rêve ne m'intéresse pas du tout.
Ce que je voudrais vraiment, vraiment, mais par-dessus tout, c'est que vous nous fournissiez quelques kilos de plutonium.
Vous les aurez.
Vous réalisez que les Allemands envoient des fusées sur l'Angleterre? Qui vous dit qu'ils n'émettront pas autre chose que de la poudre?
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe à, je fais pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Et là, bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens mieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui penche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Léo Szilard, le père de la bombe atomique.
Et c'était Boris Vian, la Java des bombes atomiques. Alors, contrairement à l'oncle de la chanson de Boris Vian, Nicolas Witkowski, Léo Szilard, lui, se pose la question de l'endroit où doit tomber la bombe. Et surtout, il se la pose lorsqu'en mai 45, l'Allemagne nazie capitule. Là, il se dit, je ne suis plus d'accord. Et c'est là où il se rend compte qu'au fond, qu'il a joué un peu à l'apprenti sorcier, parce qu'il ne veut plus qu'on utilise cette bombe.
Il a joué à l'apprenti sorcier. Il est persuadé que le monde court à sa perte. Il le dit lui-même.
La bombe n'a pas encore explosé, elle n'a pas encore été
absolument,
essayée.
Mais il est persuadé, il sait très bien que cette recherche ne s'arrêtera pas comme ça. Il a essayé au début de l'étouffer, cette recherche, et il se trouve que la faisabilité de la bombe a été publiée ailleurs, en France précisément, par Joliot. Ouais. Et donc il a été obligé de mettre ça sur la table aux États-Unis, sinon il l'aurait bien gardé dans les cartons. S'apercevant qu'il n'y a plus aucun moyen d'échapper à l'engrenage militaire, effectivement, il commence à se poser des questions. L'endroit où ce qu'elle tombe, comme disait Boris Vian, ça va se poser un petit peu plus tard. Szilard et ses amis pacifistes, qui préconisent déjà un désarmement à l'échelle de la planète avant même que la bombe ait été faite, préconisent, eux, d'en faire une démonstration. Ou du moins de la faire tomber sur un objectif militaire. Et ça, c'est ce que Truman ne comprendra pas, et l'objectif ne sera pas militaire, ça sera un objectif civil, bien sûr, Hiroshima.
Alors là, on se méfie beaucoup de lui, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il ne participe même pas à l'expérience de la bombe dont il est en quelque sorte le père, Nicolas Witkowski, et qui a lieu non pas à Hiroshima. Il y a d'abord eu cet essai dont on a un peu oublié la date, c'était le 16 juillet 1945, trois semaines à peine avant Hiroshima, et là il n'est pas là. Tous les savants, Teller, Fermi, etc. sont là, mais pas lui. On se méfie de lui déjà.
Szilard, on se méfie de lui dès le départ. Bon, il y a beaucoup de Hongrois dans ce projet Manhattan. Il paraît qu'à certains moments, quand ils étaient entre eux, quand le général Groves était parti, Szilard disait, bon, ben, on va continuer en hongrois, parce que Groves est parti. Et inutile de vous dire que Groves, le grand général américain, ne supportait pas Léo Szilard. Et il a dit de lui, c'est le genre d'emmerdeur qui serait viré par n'importe quel patron, je cite entre guillemets. Donc il avait vraiment une très mauvaise cote, c'est un mauvais coucheur, c'est un querelleur, il n'est jamais d'accord, il n'a pas du tout l'esprit d'équipe, c'est un franc-tireur, évidemment, dans un grand programme militaro-industriel, c'est pas le caractère idéal. Donc il est très mal vu d'emblée. Pour des raisons différentes, Oppenheimer, tous ces gens-là vont avoir des soucis avec les accréditations auprès du gouvernement américain. Szilard, en ce qui le concerne, la chose est claire. Lui, dès le départ, il est dans le collimateur. Et il va d'ailleurs quitter lui-même, on verra tout à l'heure, la physique pour partir vers d'autres domaines scientifiques. Mais Oppenheimer aura des ennuis. Teller, un des rares qui n'aura pas d'ennuis, c'est Teller, qui lui va embrayer, si je puis dire ensuite, sur la construction de la bombe H, et non pas de la bombe A.
Mais parce que lui, il était très anti-nazi, il deviendra, devant le futur adversaire des États-Unis, l'Union soviétique, très très anticommuniste. En tout cas, donc, la bombe est expérimentée le 16 juillet 1945, il reste trois semaines entre cette expérience nucléaire et le bombardement sur le Japon, et trois semaines pendant lesquelles Szilard s'agite beaucoup, il signe même, donc, il fait même signer une pétition destinée au successeur de Roosevelt, le président Truman.
Il faut un contrôle international de l'atome.
C'est la pétition à tout de même.
Professeur Szilard.
Ce machin est votre bébé, Léo. À vous plus qu'à n'importe qui. Mais qu'est-ce qui vous prend ?
Arthur, ils en discutent en ce moment même à Washington. Ils doivent savoir que nous sommes contre, et s'ils l'utilisent, l'histoire doit retenir que des savants s'y sont opposés. Vous allez à Washington, Arthur. Dites-le-leur. Qu'au moins ils avertissent tous ces innocents. Dites-leur de proposer une démonstration.
Il y a une pétition qu'un certain professeur Szilard veut faire parvenir au président Truman. Szilard m'a fait valoir que si nous utilisons la bombe, le monde entier nous accusera d'avoir mené une guerre sale. Mais vous devez savoir que le président pense que son premier devoir, c'est d'arrêter la guerre au plus vite, pour épargner des vies humaines.
Qui est contre l'utilisation de la bombe ?
Hmm ?
was dropped on Hiroshima, a military base. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans.
C'est le président Truman annonçant donc l'explosion de la bombe d'Hiroshima le 6 août 1945. Nicolas Witkowski, plus de 100 000 morts en une fraction de seconde. Truman, qu'on en a entendu dire qu'il s'agissait d'un objectif militaire, pas du tout. C'était une ville où il n'y avait pas de militaire, Hiroshima.
Absolument. Szilard a dit ensuite, Truman n'a pas compris. Truman n'a pas compris, ça a été de toutes les interviews qui ont été faites après. La pétition était parfaitement claire et il semble que Truman était persuadé que l'armée américaine avait choisi un objectif militaire. Et on se demande qui a décidé de bombarder Hiroshima sans faire évacuer la ville. Il y a encore des choses pas très claires.
On dit aussi qu'il voulait donc épargner des vies humaines en accélérant la capitulation japonaise. On dit même, parce que c'est déjà l'URSS a de l'ambition, on dit même que c'était pour empêcher l'URSS, qui n'avait pas encore déclaré la guerre au Japon, d'envahir l'Asie. Enfin, il y a des tas de raisons. En tout cas, Szilard, lui, est extrêmement amer. Il est déçu, il est très profondément déçu, Nicolas Witkowski. Il va tout de suite après la guerre, et même avant même, je crois, la fin de la guerre, il abandonne la physique nucléaire et il se lance dans la biologie.
Alors, Szilard est un scientifique, il a un petit côté technicien aussi très marqué, qu'il tient de ses études à Budapest, mais c'est vraiment un scientifique qui cherche les belles théories, que n'intéressent que les choses vraiment nouvelles. Là, il vient de travailler pendant plusieurs années sur cet énorme projet Manhattan très hiérarchisé, et on conçoit après Hiroshima au plan éthique, c'est une catastrophe. Oppenheimer va se plaindre à Truman de ce qu'il a du sang sur les mains, et la réponse historique de Truman, c'est ça part au lavage. Vous voyez, pour vous dire le genre de syntaxe qu'on employait à l'époque autour de ces questions-là. Et Szilard, évidemment, ne peut supporter cet état de fait et va faire de la biologie, qui à l'époque est une science toute neuve, il y a l'histoire naturelle bien sûr depuis 4 siècles, mais disons qu'il s'y passe des choses essentiellement sous l'effet des physiciens, comme Schrödinger, comme lui-même, qui ont des idées nouvelles qui vont aboutir tout simplement à la découverte de l'ADN. L'ADN, c'est les années 50, Crick et Watson. Donc Szilard sent qu'il y a quelque chose d'intéressant du côté de la biologie et dit... la physique, la big science, comme on dit aux États-Unis, comme on dit toujours, la big science, ce n'est pas de la science. C'est une façon de faire de la science et de la vendre ou de l'utiliser dans des buts industriels ou militaires. La science, c'est pas ça. Et il revient à une conception beaucoup plus pure, entre guillemets, si la science est jamais pure, de la démarche scientifique.
Et ça, il revient aussi, ça c'est tout à fait extraordinaire, j'ai appris en vous lisant, à la science-fiction. Il devient auteur de science-fiction, Szilard.
Alors il y a un peu de temps, c'est merveilleux, parce que Szilard est effectivement une très bonne plume. Un de ses livres de science-fiction qui s'appelle La Voix des Dauphins est toujours en librairie et la lecture en est fortement conseillée. Il revient à de l'utopie. On a l'impression que toutes ces lettres et ces pétitions ayant mal tourné d'une certaine façon, ayant été mal reçues, il se réfugie dans au royaume de l'utopie. Par exemple, une de ses nouvelles s'appelle « Comment j'ai été jugé comme criminel de guerre ». C'est-à-dire qu'il imagine que l'URSS a gagné la guerre contre les États-Unis et donc il y a un procès contre lui en tant qu'inventeur de la bombe et criminel de guerre. Donc c'est tout à fait fascinant de voir comment ce scientifique qui avait, par parenthèse, rencontré Wells,
l'auteur de la guerre des mondes, entre autres, en Angleterre, mais quand il était en Angleterre dans les années 30. Ouais.
Voilà comment sa rencontre avec Wells était finalement le ferment de quelque chose d'autre qui, au-delà de la science, allait en faire un auteur de science-fiction. C'est évidemment cette chose-là qui, moi, m'intéresse, c'est-à-dire que derrière le savant, il y a quelqu'un d'autre. C'est celui-là qui est intéressant aussi.
Mais celui-là qu'on a complètement oublié, il est mort totalement oublié, je crois, en 1964. Il a 66 ans à peine.
Il est mort d'une crise cardiaque, totalement oublié. Après, petite anecdote, avoir diagnostiqué un cancer de la vessie qu'il a soigné lui-même par radiothérapie à une époque, et il s'est guéri, à une époque où la radiothérapie était assez balbutiante.
C'est quand même un personnage étonnant qu'on n'oublie pas grâce à vous, Nicolas Witkowski, grâce à cette émission, parce qu'il n'y a pas de biographie de Szilard, en tout cas en français,
En langue française, non, il y a une traduction envisagée.
En tout cas, Szilard, on le retrouve dans une de vos histoires sentimentales des sciences, un livre qui vient de publier au Seuil, donc, et où Szilard se trouve aux côtés de beaucoup d'autres savants. Mais il faut écrire une biographie de Szilard, à lire également, pour l'aspect purement bombe atomique des découvertes de Szilard, La bombe atomique de Sammy Cohen, publiée dans la collection Découverte chez Gallimard, puis pourquoi pas justement le livre de Léo Szilard, le livre de science-fiction que vous avez mentionné, donc La Voix des Dauphins, qui a été publié, je crois, chez De Noël. Vous avez pu entendre des extraits d'un formidable téléfilm franco-canadien de Jean-François Delassus, La course à la bombe, diffusé par TF1 il y a quelques années. J'espère que TF1 va le rediffuser, avec Jean-Paul Muel dans le rôle de Szilard.